m'a proposé de vous parler de Saint Paul et de la notion de travail, ainsi que de la notion d'argent. Et puis, en troisième volet, si je puis dire, nous aborderons la question de la carrière dans l'Église, qui est un thème assez brûlant. Comme vous avez pu le constater lors de la lecture que nous avons vécue tout à l'heure, au cours de cet office, Saint Paul n'est pas facile à cerner. Et Sophie nous l'a montré, elle a réussi à nous donner un portrait tout à fait évident et sympathique, et ce qui est normal, dynamisant, de Saint Paul. Mais lorsqu'on lit ses épîtres, et lorsqu'on cherche par exemple, comme j'ai essayé de le faire, à voir si dans une épître en particulier il parle du travail, ou dans une autre épître en particulier il parle de l'argent, on s'aperçoit qu'on ne trouve pas d'épître spécifique. En fait, Paul, et c'est son but et sa spécificité, s'adresse toujours à un groupe de chrétiens, qu'ils soient à Corinthe, qu'ils soient à Éphèse ou ailleurs, et là, il les enseigne, mais il les enseigne sur la vie, sur le quotidien. Et il va toucher toutes sortes de points. Et vous avez vu, lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, combien il touche de points. C'est une des épîtres les plus denses, les plus complètes, et quelquefois les plus compliquées, la plus compliquée. J'ai donc essayé d'aller chercher un peu que disait saint Paul à propos du travail. En fait, avant même de vous citer, je ne vais pas vous inonder de citations parce que c'est un peu fastidieux, mais je vous en donnerai quand même quelques-unes pour préciser la pensée de Paul. Mais avant tout, je voudrais dire que Paul n'innove en rien sur le thème du travail et sur le thème de l'argent. Il n'y a pas d'innovation dans sa parole. Il va reprendre exactement, pour ce qui est du travail, tout simplement ce que la Genèse nous enseigne, c'est-à-dire ce que Dieu dit à Adam et à Ève, à savoir, et je peux vous relire ce tout petit texte, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, etc., etc. Autrement dit, il est question du travail qui est quelque chose qui nous contraint. Le travail n'est jamais aisé. Il peut être plus ou moins agréable selon nos choix et selon nos chances surtout, mais il n'est jamais aisé. Mais le travail, à partir du moment où l'homme est déchu de sa situation, eh bien, devient une obligation, une nécessité. Et c'est ce que saint Paul va reprendre au fur et à mesure qu'il s'adressera aux différentes populations qui sont en rapport avec lui. On trouve tout de suite dans les Actes des Apôtres au chapitre 20 ce que saint Paul enseigne, ou ce qui nous est dit de saint Paul, par rapport au travail et à l'argent. Donc on va toucher aux deux thèmes en même temps, parce que je ne veux pas revenir sur cette citation deux fois. Donc c'est au chapitre 20 et au verset 34-35. Maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or. Donc ceci touche au deuxième point de notre entretien, à savoir l'argent. Ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler de la parole du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Alors, tout de suite, on voit que lorsque saint Paul parle de l'argent, il fait allusion au fait qu'en ayant de l'argent obtenu par le travail, cela va nous permettre d'aider ceux qui ont moins d'argent ou ceux qui n'en ont pas. Donc, le travail et l'argent sont liées aussi à la charité. Or, nous avons entendu ce matin l'hymne à la charité, cet excellent texte, ce texte majeur de l'enseignement de Paul, où rien n'est supérieur à l'exercice de la charité. Même la foi, fallait quand même, avouons-le, être un peu gonflé, pardonnez-moi pour l'expression vulgaire, pour en arriver à dire que la charité est plus importante que la foi. Je dis que c'était quand même quelque chose d'assez fabuleux de dire cela, parce que la population à laquelle s'adressait Paul était intéressée par la foi. Et quand on disait la foi, c'était l'adhésion à la loi. Et la charité, on prenait très souvent un coup sur la tête. Donc voyez comme saint Paul canalise en quelques lignes son enseignement sur travail, avec ses mains, il parle de ses propres mains qui étaient rugueuses parce qu'il était un tisserand. Un tisserand, donc, ça travaille avec ses mains, et c'est pas facile d'être tisserand. C'est devenu un peu, aujourd'hui, un travail rare, ou bien carrément industriel, mais le tisserand qui travaille à la main, c'est plutôt, on va dire, quelqu'un qui est dans l'artisanat, donc on le considère comme quelqu'un qui est un artiste, un joyeux personnage qui crée et qui se fait plaisir en même temps. On a une vision sur l'artisanat qui est d'ailleurs assez fausse. Enfin, bon, ça c'est un autre domaine. Mais à l'époque, les vêtements étaient tissés à la main et Paul était un tisserand. Et pour gagner sa vie, il tissait. Là où il passait, et avant d'être l'apôtre, il a tissé de ses mains et il a continué de le faire tout au long de sa vie. Donc le travail pour Paul est une nécessité suite à ce que nous avons lu de la Genèse. C'est une nécessité pour vivre. Il est nécessaire de travailler, Dieu l'a dit et Paul le redit. Pourquoi il le redit ? Eh bien parce que, comme aujourd'hui, et comme toujours, l'homme est un peu feignant. Et je ne sais pas si vous avez une tendance à la feignantise, mais moi je sais que j'en ai. Et à certains moments, j'aime bien me dire, ça je le ferai plus tard, ou je n'ai pas envie de le faire, donc je le ferai faire par quelqu'un d'autre. C'est tellement agréable, dans une communauté où on a à disposition tout ce qu'il faut pour faire travailler à sa place. Eh bien, non. Paul nous dit travail. Travail, et il précisera d'ailleurs dans d'autres épîtres qu'il faut travailler pour manger son pain. Donc c'est nécessaire pour vivre parce que pour vivre, il faut manger. Donc il y a une logique dans son instruction, une logique tout à fait simple, on va dire. Je vais essayer de vous retrouver le passage important où il parle. Voilà. Donc c'est la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 12. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, donc référence à la Genèse, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Donc, une quête d'autonomie, non pas pour le plaisir d'être autonome, mais pour éviter que ce soit les autres qui le nourrissent et qui le portent à sa place. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà, on pourrait continuer. Donc, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Paul est très sévère, parce que quand même, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, c'est un peu difficile. Et je ne suis pas sûr que si nous appliquions cette formule intégrale aujourd'hui à ceux qui ne travaillent pas pour X raisons. Cette formule soit bien reçue. Et d'ailleurs, faudrait-il qu'elle soit bien reçue? C'est là toute la question, toute la problématique des textes de Paul. Vous voyez combien ils sont ambigus. Ils sont catégoriques. Parce que Paul a un caractère très affirmé, très fort. Il affirme sa foi en Jésus-Christ avec la même énergie qu'il poursuivait les chrétiens et qu'il essayait de les faire disparaître. Et nous voyons là combien la grâce dans le cœur et l'âme de Paul agit, car c'est la grâce de Dieu qui l'a transformé et qui lui fait dire des paroles aussi fortes. Quand je disais tout à l'heure, et je refais un petit pas en arrière, si je puis dire, et que le travail est nécessaire et que Paul n'invente rien puisqu'il reprend le texte de la Genèse et qu'il l'applique, mais on le voit ici, lui-même s'est appliqué cet ordre de Dieu, de travailler à la sueur de son front. Et il ne fait que reprendre l'exemple du Christ lui-même, qui a travaillé lui aussi de ses mains. Rappelez-vous que Jésus était charpentier avec son père Joseph. Il a travaillé de ses mains. Donc, il n'a pas échappé, et c'était bien dans le sens de l'incarnation, de la kénose du Christ, de vivre ce que Adam, à partir de sa faute, a été amené à vivre. Donc là, nous sommes dans une continuité de la proposition divine. Et en ce sens, effectivement, Paul n'invente rien. Il y a une petite nuance que je voudrais vous faire sentir. Dans les écrits de Paul, dans les diverses épîtres, il parle du travail, donc du travail de ses mains pour gagner son pain, mais il parle aussi d'un autre travail. Alors là, évidemment, la problématique est dans la traduction. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de la langue biblique, Sophie aurait été beaucoup mieux pour en parler, mais en lisant tout simplement les textes tels que je les ai pris dans la traduction que j'ai, qui est la traduction protestante, mais que j'aime beaucoup, de Louis II, qui est à mes yeux une des meilleures. Donc je me suis aperçu en cherchant qu'on trouvait aussi des passages où il parlait du travail, mais d'un autre travail. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 12 et 13, voici ce qu'il dit. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Et là, vous voyez qu'il parle, on utilise le mot travail, mais il ne s'agit pas tout à fait du même travail. Il s'agit de l'œuvre apostolique. Autrement dit, de l'action qui caractérise saint Paul en particulier, à savoir d'annoncer Jésus-Christ et Jésus-Christ ressuscité. Et alors là, il insiste autant pour l'œuvre qui doit s'exercer par les apôtres, quels qu'ils soient, apôtres au sens très large du terme, l'œuvre que doivent exercer les apôtres, qui a autant d'importance que le travail manuel, ou non manuel, qui doit être exercé pour gagner sa vie, c'est-à-dire sa nourriture, pour vivre. Alors là, je vais raccrocher cela, si vous le permettez, à une réflexion que j'essaye de mener depuis un temps, parce qu'elle m'a beaucoup accroché. C'est-à-dire que, autant le travail pour gagner sa vie, son pain, pour vivre, et l'œuvre, qui est considéré comme un travail aussi par Paul, qui est d'annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, tout cela nous mène à quoi, si nous réfléchissons un peu? Eh bien, tout cela nous mène au grandissement de l'être, de la personne. Et je vais certainement vous choquer en vous disant que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. C'est écrit nulle part. Et même il dit le contraire. Lorsqu'il s'adresse à Moïse, souvenez-vous, au buisson ardent, Moïse se demande qu'est-ce qui se passe, cette voix qu'il entend au travers d'un buisson qui ne se consume pas. Et il interroge, qui es-tu ? La réponse est, je suis celui qui est. Dieu ne répond pas, je suis celui qui existe. Et si nous réfléchissons à cette réflexion qui pourrait paraître uniquement philosophique, elle est certainement philosophique, mais elle n'est pas que philosophique. Parce que l'existence, en fait, c'est, on peut dire, l'artifice. Je vais chercher à exister, mais en détournant ma véritable vocation qui est d'être. Alors comment je vais chercher à exister ? Eh bien, en mangeant, par exemple, mais sans travailler. En travaillant pour manger, mais manger beaucoup. Pour inviter tous mes amis et leur montrer que j'existe parce que je suis capable de leur offrir énormément à manger. Il y a eu un film que je n'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est très drôle, mais bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour voir des films, qui s'appelle La Grande Bouffe. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Alors, ce film est une critique de cet excès qui amène ceux qui non pas mangent, mais bouffent, à chercher à exister plutôt qu'à être. Donc j'essaye de vous montrer comment on peut dévier par rapport à l'enseignement du Christ et par rapport à l'enseignement de Paul, et comment Paul insiste sur le fait qu'il faut revenir à cette quête de l'être qui est notre propre vocation. Pour être, je dois travailler, comme le Seigneur l'a proposé et l'a demandé à Adam et à Ève, et je dois travailler pour vivre. Mais la vie, c'est être, et c'est pas exister. Il n'est pas besoin de se promener longtemps dans une ville un peu conséquente pour voir qu'on vous propose d'exister, mais pas d'être. On vous propose d'exister, c'est-à-dire d'utiliser tout ce qui peut vous permettre de paraître. Paraître. L'existence, c'est le paraître. Mais être, on ne vous le proposera pas. Ou alors, on vous le proposera d'une manière mensongère. En utilisant même des phrases des pères de l'Église, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. J'ai vu une fois une réclame qui proposait des vêtements d'hommes, costume, et où il était marqué « Deviens ce que tu es ». C'est aberrant. « Deviens ce que tu es », vous savez qui l'a dit ? C'est saint Augustin, qui n'a pas dit des bêtises, et bien loin même. Contrairement à ce que les orthodoxes ont tendance à penser. Mais souvent, ceux qui pensent comme ça n'ont jamais lu saint Augustin. Une parenthèse. Mais « Deviens ce que tu es », c'est ce que disait Augustin lorsqu'il donnait le corps du Christ à la communion. Et voilà qu'on utilise cette phrase, encore une fois, je ne sais pas si ça a été conscient, si le type ou la personne qui a proposé cette réclame connaissait saint Augustin, mais en tout cas, et là, on voit le glissement. Ce n'est plus proposer l'entrée ou la progression dans cette vocation de l'homme qui est d'être, mais au contraire, exister. C'est-à-dire, paraître pour un moment. Car nos costumes, fussent les plus beaux, pourriront dans notre cercueil et dans la terre. Mais notre être, lui, va demeurer, va grandir et va s'épanouir en Dieu. Et rien ne sera perdu de notre travail véritable qui aurait été l'obéissance de l'homme à la proposition divine. Et c'est pour ça que saint Paul y revient pratiquement dans toutes ses épîtres. Rien n'aurait été perdu de cette énergie donnée pour non seulement se nourrir, mais nourrir sa famille, ses enfants, et ses grands-parents, et ses amis, et ceux qui n'ont rien. Car Paul insiste là-dessus, je l'ai lu tout à l'heure. Tu travailles pour gagner ton pain et pour donner du pain à celui qui n'en a pas. Et lors de nos carèmes, en général, nos pasteurs nous invitent non seulement à jeûner, donc à faire un effort de, on va dire, de privation pour être dans cette vocation de l'être, mais parallèlement à ce jeûne, il nous invite toujours à offrir à celui qui n'a pas, qui n'a même pas le minimum que nous allons nous donner pendant le carême. Alors, il y a encore beaucoup d'autres textes sur le travail dans saint Paul. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2, versets 1 à 6. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Donc il fait allusion au combat qu'est le travail. « Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Donc le travail, il est considéré comme un élément qui nous apporte des fruits, non seulement pour nous nourrir, mais pour nous construire dans l'être. Car le travail est une assaise, forcément. Et si nous examinons un tout petit peu les contraintes du travail, ce sont des contraintes qui peuvent être physiques, qui peuvent être morales, qui peuvent être psychologiques. Avoir un patron qui nous gère n'est pas toujours facile. Lui obéir n'est pas toujours facile, et il faut le faire avec discernement, et non pas comme un élément de troupeau. Et là, nous savons combien c'est complexe, combien il est quelquefois nécessaire de dire à sa hiérarchie non, de choisir. Et je pense, voyez-vous, à toutes ces personnes dans l'Église, qu'elles soient dans la hiérarchie ou non, hiérarchie institutionnalisée, qui ont été amenées à choisir par rapport à leur carrière. On touche un peu le troisième point. Alors, carrière professionnelle. Là, nous pouvons parler de carrière sans problème. Encore que. Il est arrivé à beaucoup d'entre nous, ayant un travail pour vivre, pour faire manger sa famille, ou tout simplement pour se nourrir soi-même, il est arrivé que des propositions soient faites pour que l'on prenne un poste supérieur, puis supérieur encore, puis peut-être encore supérieur. Et la question se pose d'une éthique par rapport à cette évolution de carrière. Est-ce que je vais être toujours dans la ligne de ce que saint Paul propose, de ce que le Christ a proposé avant saint Paul, et de ce que le Créateur a demandé à Adam? Ou bien est-ce que je vais être dans un mouvement d'orgueil plus ou moins sournois qui va me permettre d'être dans une certaine gloire aux yeux des hommes? Et nous revenons à notre thème: est-ce que ça va me permettre d'exister ou d'être? Et souvent dans l'Église, la question doit se poser. Lorsqu'un futur prêtre qui travaille parce qu'il a une épouse et des enfants voit son patron lui proposer un poste très important qui risque d'atteindre son travail, son œuvre, comme le dit Paul, de prêtre, d'apôtre, il va y avoir un choix à faire, un discernement nécessaire, obligatoire. Et peut-être qu'il faudra dire non, je ne fais pas carrière parce que Dieu me demande d'exercer l'œuvre. Il me demande d'être, de rentrer dans mon être profond, personnel, de prêtre, de diacre, de laïc, engagé dans la théologie, dans la catéchèse, dans le chant, dans toutes sortes de choses. il va falloir choisir. Et c'est ce que Paul essaye de faire comprendre à ses concitoyens, à ses amis qu'il visite, à qui il écrit. Attention. D'abord, il y avait, comme j'ai dit au début, il y avait forcément des gens qui n'avaient pas envie de travailler. Parce que ça, c'est la tentation de l'homme. Tous, nous avons des moments où nous n'avons pas envie de travailler. Et Paul leur dit, regardez, regardez-moi. Il est quand même avec un caractère terrible, ce Paul. Il arrive à dire, regardez-moi. Est-ce que vous pensez que moi, je pourrais vous dire aujourd'hui, regardez-moi? Bon, je ne suis pas saint, je ne suis pas saint Paul. C'est déjà une excuse fondamentale. Mais quand même, regardez-moi, il n'a pas peur. Hein. Eh bien, pourquoi il n'a pas peur? Parce que c'est par la grâce de Dieu qu'il est. Il est entré dans cet épanouissement de l'être, de sa personne choisie par Dieu sur le chemin de Damas pour annoncer le Christ mort et ressuscité pour le salut de l'homme. Et voilà sa vocation, donc il n'a pas peur de dire « regarde-moi ». Il dira d'ailleurs qu'il a été, qu'il est un rejeton et qu'il n'est pas un apôtre au sens des apôtres choisis par le Christ, etc. etc. Et pourtant, c'est un apôtre. Donc, il y a un moment où nous sommes amenés à choisir. Qu'est-ce que je fais de mon travail? Et c'est là-dessus que nous devons essayer de réfléchir en tant que chrétiens, en tant que baptisés. Qu'est-ce que je fais de mon travail? Alors, la problématique est très, très conséquente. Parce que nous vivons, et en Europe particulièrement, une crise depuis longtemps du travail. Il y a des gens qui ont du travail, il y a des gens qui n'en ont pas, et ce n'est pas de leur faute. Ils voudraient travailler, et ils ne parviennent pas à travailler. Et notre réflexion, par rapport aux écrits de saint Paul, elle doit se poursuivre, car qu'est-ce que saint Paul veut dire quand il dit « tu dois travailler pour gagner ton pain » Il nous dit aussi « tu dois permettre à ton frère de travailler pour qu'il gagne son pain ». Et s'il ne peut pas travailler, tu dois l'aider, car il fait allusion à cette entraide. Gagne ta vie, gagne ton pain pour donner quelque chose à ton frère. La notion de partage, et du travail, et du pain. Ça, c'est une question pour aujourd'hui. C'est une question importante que nous autres chrétiens, nous devons nous poser. Je laisse la question ouverte et nous en débattrons, si vous le voulez, tout à l'heure. Maintenant, je vois que le temps passe et que je bavarde beaucoup, et je vais passer à l'argent, la question de l'argent. Alors là, on a moins de textes, ça va être plus court au niveau des citations. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, verset 1 et la suite, si quelqu'un, il parle de l'évêque, excusez-moi, on va viser la tête tout de suite. Si quelqu'un parle de l'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ça, c'est clair. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est la moindre des choses. Bon, maintenant, la question ne se pose plus, je dirais malheureusement. Mari d'une seule femme, enfin, ceci n'engage que moi. Ne dites pas que l'Église dit cela, c'est Siméon qui dit ça. Moi, je pense que nous devrions avoir des évêques mariés, ça arrangerait beaucoup de choses dans l'Église, mais ça, c'est une autre affaire. Marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, c'est-à-dire nier, qu'il ne soit pas excessif, mais indulgent, pacifique, et qu'il soit détaché de l'argent. Donc, Paul, là, parle à Timothée pour l'aider à remplir son apostolat et pour montrer qu'est-ce que doit être l'épiscope, celui qui va veiller sur les autres. On ne peut pas veiller sur les autres si on n'a pas un minimum de règles morales, spirituelles, à s'appliquer à soi-même. Et parmi les règles, et c'est la dernière qu'il indique, qu'il soit détaché de l'argent. Ceci s'applique aux évêques, mais nous pouvons nous l'appliquer à chacun d'entre nous. Être détaché de l'argent. Et c'est là-dessus que Paul insistera. Là encore, il n'innove pas. Rappelez-vous l'histoire. l'histoire du jeune homme riche à qui le Christ propose de se libérer de son trop-plein. Alors, est-ce qu'il était riche de son argent ou riche d'autres biens? Nous ne savons pas. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le mot riche. Être riche. Encore un autre passage dans la première épître à Timothée, chapitre 6, et versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. Attendez, j'ai secoué ça. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident. Non, excusez-moi, je fais une erreur. Ça, c'était pour le travail.